Les aventures de l'esclave Brotos. Les noms employés dans cette allégorie sont tirés du grec. Brotos, mortel, Chronos, le temps, Thanatos, la mort, Aionia, l'éternité. Du plus loin qu'ils me souviennent, je me vois habitant une misérable et solitaire cabane en compagnie d'un vieil homme taciturne et méchant, mon maître Chronos. Je ne connaissais alors ni le nom de mes parents, ni mon lieu de naissance. Quelquefois, surtout au printemps, quand le soleil prêtait à toute chose un charme nouveau, une porte semblait soudain s'ouvrir dans ma mémoire, et je voyais passer devant moi des images indécises. Une belle maison, entourée de jardins fleuris, tout peuplée d'êtres aériens aux voix délicieuses. Mais tout cela était vague, fugitif, et de plus en plus lointain. Dans l'abêtissement de ma vie d'esclave, ces réminiscences s'effacèrent peu à peu, et je fus en proie à l'affreuse réalité, le fouet du sinistre Chronos. Ce Chronos était un être bizarre. Il était chauve, ridé, en un mot, laid à faire peur. Pourtant, à certains jours, ce hideux vieillard se fardait, abritait son chef branlant sous une perruque blonde, se teignait la barbe et les sourcils, et remplaçait ses haillons ordinaires par une défroque prétentieuse, puis se mettait à fredonner des airs guillerets d'une voix fêlée. Il me contraignait alors à danser. Je ne sais en vérité s'il ne m'inspirait pas plus d'horreur en ces moments-là que dans son humeur habituelle. Ses coups valaient mieux que ses caresses, et pourtant il frappait dur et souvent. Mon travail consistait à labourer un maigre champ, à paître quelques brebis, à fendre le bois, à porter l'eau. Enfin, j'étais l'esclave à tout faire. La besogne était rude et incessante. Chronos ne me laissait guère chômer. Nous partions quelquefois pour de mystérieuses expéditions, lui armé d'une grande faux, moi chargé des provisions de route. Il marchait d'un pas toujours égal, sans fatigue apparente. Je le suivais haletant. Je le suppliais en vain de me donner un instant de répit. « Marche, esclave, marche !» me répondait-il, d'une voix brève en me menaçant de sa terrible faux. Si misérable que fût mon existence, l'espérance m'aidait à la supporter. La jeunesse, Dieu merci, ne marche jamais sans cette agréable compagne. Quelque chose me disait que je ne serais pas toujours l'esclave de ce Chronos. Je voyais me sourire la destinée dans les fleurs sauvages qui bordaient la route ou croissaient à l'orée de la noire forêt près de laquelle nous habitions. Les étoiles me parlaient aussi. Une lumineuse et pourtant obscure prophétie de bonheur semblait tomber sur moi chaque soir de ces espaces immenses et silencieux qu'on appelle le ciel. Mais je remarquais nombre de fois que si mon maître Chronos survenait en ces moments de rêverie, il suffisait que son ombre se projetât sur mes fleurs pour qu'elles se flétrissent aussitôt, et le ciel même semblait s'obscurcir dès qu'il se dressait à mes côtés. Et mes nuits, elles se passaient en alternative de rêves agréables et de frayeurs atroces. Il faut que vous sachiez que la forêt voisine était hantée par un loup, terreur de la contrée, un loup formidable auquel mon maître donnait le nom de Thanatos. Entre ces deux êtres existait un rapport que je ne parvenais pas à m'expliquer. Tantôt Chronos parlait du loup en plaisantant, comme d'une bête familière et inoffensive. Tantôt il ne la nommait qu'à voix basse et en tremblant. « Je sais, me disait-il en ces rares moments d'abandon, que je finirai sous ses crocs. « Mais toi aussi, Brotos !» ajoutait-il avec un rire méchant. L'hiver surtout, Thanatos hurlait la nuit dans le vent des tempêtes, et tout mon corps se glaçait sur mon grabat lorsque je l'entendais rôder autour de la cabane. Plusieurs fois, je vis à travers la porte mal jointe briller ses yeux de flamme. Il grattait le sol avec frénésie. Il allait entrer. Ces nuits-là, Chronos se levait, prenait tour à tour une voix emportée et caressante. « Pas encore, Thanatos, calme-toi. L'heure n'est pas venue. » Et pour apaiser la bête sanguinaire, il allait à l'étable, prenait l'agneau le plus tendre et le plus blanc et le jetait au loup qui s'enfuyait dans les bois avec cette proie dans la gueule. C'était même à cet usage presque exclusif que notre troupeau était destiné. À part le peu de laine et de lait que nous en retirions, il ne nous servait guère qu'à nourrir Thanatos. Un soir, comme je rentrais des champs, plus harassé, plus découragé qu'à l'ordinaire, je trouvai dans la cabane le repas déjà préparé. Un air d'ordre et de propreté était répandu dans notre masure. Chronos, satisfait, était assis près du foyer, tandis qu'un beau jeune homme, sa robe ramassée autour des reins comme les esclaves, achevait la besogne que j'aurais dû faire en rentrant. « Réjouis-toi, Brotos, » me dit mon maître. « Voici un compagnon que je t'ai donné. Il s'appelle Christos. » Le nouveau venu se tourna vers moi et me regarda en souriant. Tout de suite, je me sentis conquis par ce sourire, et mon cœur vola à ce compagnon d'infortune qui m'arrivait si mystérieusement. J'aurais voulu l'interroger, savoir son histoire, mais je craignais Chronos et je me tus. Le lendemain, Christos, levé avant l'aube, avait déjà fait la moitié de mon travail lorsque je le rejoignis. Il me salua d'une cordiale étreinte. « Nous sommes frères, » me dit-il. Et bien que je ne crusse pas ces paroles littéralement vraies, elles me réconfortèrent étrangement. « Je ne suis donc plus seul, » pensais-je. « J'aurai donc désormais un confident de mes peines et de mes espérances. »« Sois béni, Christos, » répondis-je. « Quelle que soit l'aventure qui t'a conduit en ce triste lieu, il est moins triste depuis ton arrivée. Mais dis-moi comment un homme tel que toi a pu se laisser réduire en servitude par un maître tel que Chronos. « plus tard, » me dit-il. « Pour aujourd'hui, allons labourer, car tu sais que le maître n'est pas tendre. » Nous partîmes, et Chronos, qui ne nous avait pas entendus, car les esclaves ont un langage à eux, une façon de s'entendre en parlant du bout des lèvres, Chronos nous suivit du regard, l'air à la fois soupçonneux et content. Ce nouvel esclave, évidemment, faisait son affaire, mais il ne l'aimait pas et l'accablait de plus de coups que moi. Christos les recevait sans se plaindre et sa patience m'étonnait. Nous formions, lui et moi, un parfait contraste. Il était grand, bien fait, robuste, un air de santé et de joie était répandu sur son visage. Moi, j'étais malingre et chétif, comme un enfant arraché trop tôt à la tendresse maternelle. Nous nous mîmes à la besogne, et Christos en fit la plus grande part. À chaque instant, il m'obligeait au repos, travaillant pour deux. Il ne gémissait pas comme moi. La seule ombre de tristesse que j'aperçus dans ses yeux lui vint en me regardant, débile, penché sur mon sillon, que j'arrosais de ma sueur. « pauvre enfant !» murmurait-il avec une douceur infinie. Et même lorsque, à travers mes haillons déchirés, il vit la trace des coups de fouet dont Chronos m'avait frappé depuis tant d'années, un sanglot lui échappa. Au bout de quelques jours, je n'eus plus de secret pour mon ami Christos. Je lui racontai tout, mes terreurs aux hurlements de Thanatos, les propos cruels de notre maître, et mon espoir, mon invincible espoir si insensé pourtant, de voir un jour finir mon esclavage. « Tu as raison, » me dit-il. « Espère, espère, et crois en moi. »« En toi ?» m'écriai-je. « Oui, je sais, tu es grand et fort, tu es doux, et ta présence est pour moi meilleure que la vie. Pourtant, tu n'es comme moi que l'esclave de Chronos. Ta soumission m'étonne, et ne me promet guère la liberté. Ah, si j'avais ta force, mais puisque tu acceptes pour toi la servitude, comment m'en affranchiras-tu ? » Alors Christos, me menant à l'écart sur un siège de mousse, à l'abri d'un rocher, me révéla l'ineffable mystère de son être, et quand il eut parlé, je me jetai à genoux, puis, relevé par lui, je l'embrassai avec des pleurs de joie. Quelques jours plus tard, en arrivant au champ sur les pas de Christos, je trouvai notre travail déjà fait, et mon ami prêt à se mettre en route. « Nous partons, » me dit-il. Il y eut dans ce mot, dit d'une voix brève et assurée, une force qui se communiqua à moi. Et d'ailleurs, à quoi eussent servi mes objections? Mon cœur était gagné à ce frère mystérieux. Chronos était bien le maître de mon corps, mais Christos possédait mon âme tout entière. Il se dirigea vers la forêt. « Pas par là, Christos, je t'en supplie, » m'écriai-je presque involontairement. « Ce ne peut pas être le chemin de la liberté, car le loup, Thanatos, y rôde incessamment, et jamais aucun voyageur n'est revenu de ces solitudes impénétrables. » « Je sais tout cela, » répondit Christos. « Écoute, enfant, crois-tu en moi ?»« Je te suivrai jusqu'à la mort, » dis-je résolument. « Eh bien, en route, » s'écria-t-il. Nous marchâmes longtemps à travers les fourrés, sous la voûte sombre des chênes. Christos allait devant, écartant de ses deux mains, qui furent bientôt toutes sanglantes, les ronces et les épines pour me frayer le passage. Il allait avec assurance, comme quelqu'un qui connaît le chemin. Devant nous fuyaient toutes les créatures farouches qui peuplent la forêt et qui n'avaient jamais vu jusqu'alors le visage de l'homme. De temps en temps, nous entendions les hurlements de Thanatos. Mon compagnon me prenait alors par la main. Sa taille se redressait. Son regard prenait une fixité étrange en se dirigeant vers les halliers d'où partaient les hurlements qui se changeaient presque aussitôt en grondements sourds comme d'une bête domptée. « Ne crains rien, je suis avec toi, » me disait-il, et ses paroles soutenaient mon courage. Enfin, le soir venu, nous atteignîmes une grande clairière. Depuis un moment, les broussailles avaient disparu. La forêt était devenue majestueuse et accueillante à la fois, et nous marchions sur une belle avenue de cèdres qui aboutissait là-bas, à une maison magnifique dont toutes les fenêtres étincelaient de lumière. Alors un phénomène étrange se passa dans mon esprit. Il me sembla être revenu à une époque lointaine, bien avant Chronos et l'esclavage et les coups. Je reconnus les lieux et m'écriai éperdu « Mon père ! La maison de mon père !» Christos se pencha vers moi en souriant. Oh, ce sourire ! Et il me dit « Ne t'avais-je pas promis de grandes choses ?»« Mais je n'attendais pas celle-ci, » répondis-je. « Marchons, me dit-il, tu vas voir mieux encore. » Alors, quand nous fûmes tout près de la maison, m'apparut la plus idéale vision qu'il puisse être donnée aux hommes de contempler. Sur le perron de la noble demeure, debout dans un rayon de lumière qui semblait tomber des cieux exprès pour l'envelopper, une forme blanche en qui la femme et l'ange unissaient leur beauté, nous regardait approcher en souriant. Son sourire était celui de Christos. Elle chantait une lyre d'ivoire entre les mains, et voici les paroles de son chant. « Pauvre enfant, longtemps égaré, accours à la voix qui t'appelle, c'est moi qui te consolerai, Aionia, la vie éternelle. » En finissant cette strophe que j'écoutais avec ravissement, Aionia descendit les degrés et s'avança vers nous. Je m'élançai. J'allais franchir d'un bond les trois fossés qui me séparaient d'elle lorsque, tout à coup, une lourde main s'abattit sur mon épaule et je vis briller sur ma tête la faux terrible de Chronos. « Ah ! » dit-il, « j'arrive à temps, esclave, pour vous réduire ou vous tuer. Rentrez au logis, vous périrez de ma main. » Mais Christos, de sa poigne vigoureuse, écarta le vieillard. « Laisse-nous, » dit-il. « Et reconnais ton maître, je suis le fils du roi, et celui-ci est mon frère que tu as dérobé pour la servir. » Fou de rage déçu, Chronos fit tournoyer sa faux tranchante et en frappa mon frère Christos. Je vis celui-ci chanceler et s'abattre, mais pour un instant à peine, tout couvert de sang, il se releva, saisit Chronos et, lançant la faux au loin, terrassa le misérable. « À moi, Thanatos, à moi !» cria celui-ci d'une voix étouffée. Un bruit se fit parmi les feuilles, et le loup bondit à mes pieds. Je ne l'avais jamais vu. Il était gigantesque. Détournant ses yeux farouches pour ne pas rencontrer le regard de Christos, il se jeta sur lui. Je crus notre dernière heure venue. Horrible situation! Là, tout près, Aionia, sa lyre à la main, toujours environnée de lumière, regardait le combat comme si elle était sûre de la victoire de Christos. Son assurance me rendit du courage. Cependant, le loup hurlait, mordait à pleines dents mon frère bien-aimé, tandis que je ne pouvais rien pour lui venir en aide. Mais Christos triompha pour nous deux. Un moment, Thanatos et lui roulèrent ensemble dans la poudre, mais bientôt je vis Christos, couvert de plaies, pâle et rayonnant, debout. Il serrait d'une main la gorge haletante du loup. De l'autre, il tenait Chronos. Sa force était miraculeuse. « À l'abîme, tous deux » cria-t-il. Et il les entraîna vers un trou noir et profond qui s'ouvrait entre des rochers à quelques pas de l'endroit où s'était livrée la bataille. On entendit les deux corps rouler dans les profondeurs infinies. Alors Christos revint vers moi. Sa face, naguère terrible, était redevenue souriante. Sa main, qui venait d'étrangler Thanatos, se posa sur mon front, y imprimant une trace de sang que je garderai au siècle des siècles. « Viens !» me dit-il. Alors le palais devint plus resplendissant que jamais. Des êtres aériens, pareils à ceux qui me visitaient dans mes rêves d'enfance, peuplèrent les jardins fleuris, et, par la porte qu'Aïonia venait d'ouvrir toute grande, en chantant, nous entrâmes, Christos et moi, dans la maison de notre Père.